Bonjour à tout le monde. J'ai pas trop l'habitude d'être ici à cette place, mais à chaque fois, je vois qu'il y a plein de choses qui se passent avant d'arriver au moment de la prédication. Et j'ai beaucoup apprécié les chants ce matin. J'ai bien fait de ne pas regarder la liste des chants avant de venir, mais ça fait partie de mes chants préférés. Difficile à chanter et à jouer. Et puis en plus, le nom, ce sujet de l'introduction, c'est parfait. Ça tombe pile poil. D'ailleurs, tu as déjà fait la prédication, j'ai plus rien besoin de rien dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Diego? Pendant longtemps, je savais pas, je trouvais pas, et finalement, j'ai trouvé une petite explication. Apparemment, ça viendrait de la racine grecque, je sais pas laquelle, mais c'est la même racine grecque que didactique. Diego voudrait dire enseignant, prof. Curieux, je me suis retrouvé à être prof, c'est mon métier. Et puis, je voulais parler de ce métier de l'enseignement. Parce que peut-être le plus grand enseignant que l'on puisse avoir, c'est Jésus même. Donc c'est intéressant de voir Jésus en action, Jésus en train de d'enseigner. Et c'est pour ça que je vous propose un texte ce matin dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Donc j'ai pris la version Nouvelle Français Courant. Je vais le lire. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit sur la barque, dans la barque, et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. J'essaie de me remettre en question en tant que Seigneur en permanence. J'ai voulu m'attarder sur cette stratégie pédagogique qu'a Jésus dans ce texte de Luc. Parce que peut-être en étudiant la manière dont il enseigne, nous pouvons voir qu'est-ce qu'il nous enseigne. Il n'avait pas de micro, pas de vidéoprojecteur. C'était juste lui et la foule. C'est impressionnant quand on sait qu'on a du mal à enseigner à 30 étudiants, alors une foule complète. Le chapitre 4 de Luc, donc ce qui se passe juste avant, nous raconte les débuts du ministère de Jésus. Jésus est baptisé, il est rempli de l'Esprit Saint, il enseigne en Galilée, dans les synagogues, à Nazareth, à Capharnaüm. Il dit au verset 14 du chapitre 4, « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues. » Et tout le monde faisait son éloge. Et après, au verset 32, ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. On essayait de le retenir. Ouais, mais mes élèves partent 10 minutes avant la fin du cours. Et eux, ils essayaient de le retenir. Et il doit dire à la foule de le laisser partir. Je dois aller annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes aussi. Car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Tout ça, ça a commencé avec un seul homme. Mais à la fin de l'histoire, ce que nous avons lu tout à l'heure, les pêcheurs laissent leur barque et suivent Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je me suis demandé, en revisitant ce texte, qu'est-ce qui pousse ces hommes à laisser leur travail, leur entreprise, pour suivre Jésus ? Jésus se trouve au début de ce chapitre au bord du lac. Il est donc victime de son succès. La foule le presse. Il choisit donc une barque pour monter dessus et on pourrait penser qu'il choisit la barque un peu au hasard. Dans ce texte de Luc, c'est la première fois que Jésus et Simon se retrouvent. Mais en réalité, si on va voir dans l'évangile de Jean, Jean nous explique qu'en fait, ils se connaissaient déjà. C'est le frère de Simon, André, qui avait présenté Jésus à Simon. Il lui avait dit en plus, il est le Messie, c'est lui le Messie. En lisant rapidement le texte, on a l'impression que Jésus choisit ses disciples au hasard. Mais en réalité, Simon et ses compagnons, ils étaient déjà des disciples. Ils avaient entendu Jésus enseigner. Ils ont partagé des repas ensemble. Ils ont fait de la route ensemble. Lorsque Jésus fait irruption dans la barque, il connaît bien le propriétaire de cette barque. Lorsqu'il lui demande de pousser la barque pour l'éloigner du bord, il s'adresse à un ami et non pas à un serviteur. Cette barque représente d'une certaine façon ce que sera le ministère de Simon, Céphas, parce que en Jean nous dit qu'il donne le nom à Pierre, à Simon, il l'appelle Céphas, qui veut dire Pierre. On oublie ça, on se souvient du passage où Jésus dit « Tu es Pierre et sur cette pierre tu édifieras mon église ». Mais en fait, il l'avait déjà nommé Pierre, et Pierre le savait. La pierre, le roc, c'est comme cette barque qui tangue sur le lac de Tibériade, poussée légèrement par Simon, mais habitée par Jésus, parce que c'est Jésus qui révèle le plan de Dieu pour nous. Il y a une femme rabbin, Delphine Horvilleur, elle s'appelle. Elle disait dans une interview que les principaux héros de la Bible, les héros de la foi, ont souvent un défaut majeur, un handicap. Ce qui est curieux, c'est que leur handicap est en même temps leur meilleur atout. Abraham, il était stérile. Bon. Est-ce que c'était sa femme, c'était lui? C'est peut-être lui qui était stérile, et pourtant, il a donné naissance à une multitude, à une descendance innombrable. Isaac, le grand visionnaire, il était aveugle. Jacob, c'était un boiteux, vous vous souvenez, la hanche. Et pourtant, c'est l'exemple de la rectitude. Moïse, il bégaye, il n'arrive même pas à parler. Et pourtant, c'est le porte-parole de Dieu pour son peuple. Dire que Simon n'était pas un grand orateur, c'est presque un pléonasme. Moi, je pense qu'il était très timide. Il ne savait pas parler. Mais c'est cet homme qui prendra la parole lors de la Pentecôte et verra convertir 3000 personnes lorsqu'il s'adresse à eux. On l'a dépeint parfois comme quelqu'un de colérique, mais pour moi, il est plutôt taciturne. C'est comme ça que je le vois. Maussade, renfrogné, lâche. Il est certainement dépressif, hanté par une histoire personnelle inavouable. Mais les vrais leaders dans la Bible sont ceux qui composent avec leurs défauts et ceux qui bâtissent dans la foi à partir de leurs faiblesses. C'est précisément ces personnes que Dieu choisit pour accomplir son plan. Le Seigneur, comme dans le cas de Simon, il vient jusqu'à nous, dans notre réalité, dans notre travail, comme il est venu jusqu'à ces pêcheurs du lac du Tibériade. Nous avons parfois tendance à séparer notre vie spirituelle de notre vie professionnelle, notre vie quotidienne. Nous nous laissons happer par la routine. Dans la vie moderne, tout va très vite. On doit souvent montrer qu'on est très très occupé. On doit se surcharger. Si on n'est pas assez chargé, on se surcharge de travail pour montrer la valeur de nos vies, pour donner un peu un sens à nos vies. Et on doit être tout le temps disponible. Tout le temps disponible pour nos supérieurs, nos collègues. Eh bien, Dieu vient nous chercher dans ce milieu-là, dans ce brouhaha, dans ce désordre de notre vie. C'est là où il vient nous chercher. Souvent, nous avons tendance à penser que c'est nous qui avons choisi Dieu, que c'est un choix personnel. Tu parlais du choix tout à l'heure. Il y a le Rioux qui s'attarde sur cette question du choix dans le numéro qui va sortir dans quelques minutes. En réalité, c'est Dieu qui nous choisit. Dans Romains 5, 8, il est dit: Mais Dieu nous a prouvé à quel point nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, Dieu le Père vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Le Seigneur vient jusqu'à nous et il nous fait entendre sa voix. Il nous enseigne, il nous exhorte. Il suffirait peut-être de l'écouter, mais l'écoute doit être active. Cela doit impliquer un effort, comme avec la barque, prendre un peu de recul, s'éloigner. Aujourd'hui, on a du mal à écouter. Je sais qu'il y a des enseignants dans la salle, donc ils vont être d'accord avec moi. De nos jours, le numérique prend de plus en plus d'attention. Apparemment, dans les lycées, à partir de la rentrée prochaine, les portables sont totalement interdits. La technologie a réussi à nous rendre dépendants de ces appareils que nous avons dans la poche. Et quand on est enseignant au collège, au lycée, à l'université, on voit les ravages que ça fait. Cette année, j'ai des étudiants qui, vraiment, ils ont du mal à se concentrer. J'ai beau faire des cours super intéressants, inspirants, des activités pédagogiques innovantes, mais je ne sais vraiment pas plus quoi faire. La dernière fois, je leur ai demandé, mais vous avez besoin de quoi? Ils m'ont dit, on n'arrive pas à se concentrer. Vous parlez, j'arrive pas à retenir leur attention, même 10 minutes. On n'arrive vraiment pas à se concentrer. Je leur dis, quoi faire? Ils me disent, faites un caout. Vous savez pas ce que c'est qu'un caout? Un caout, c'est une activité sur Internet. C'est un questionnaire à choix multiples. Donc, vous projetez sur un écran une question pour voir s'ils ont compris ce que vous venez de leur dire. Et ils doivent cocher avec leur portable, évidemment. Ils doivent répondre à la question. Et ils se rendent compte en temps réel s'ils ont compris ou pas ce qu'on vient de leur dire. C'est un peu absurde, mais bon. En fait, écouter, ça implique un effort. Je sais que vous êtes en train de faire un effort ce matin. Il faut un peu comme Comme Simon, il faut laisser tomber le filet de nos mains, laisser nos distractions de côté, pousser un peu la barque, ça réveille, ça nous met dans une posture d'écoute active. Cela implique aussi de faire des choix. Je vous invite à lire le journal du Rio, comme le dit Sarah dans son édito de ce numéro. La question dans notre vie, souvent, ce n'est pas vraiment quoi choisir, mais qui choisir. Bien avant que Simon se mette en marche, qu'il pousse la barque, il avait déjà fait son choix, je pense. C'est mon avis personnel. En écrivant l'article de Rio, je me suis attardé sur cette question du choix, j'ai cherché sur Internet, et je suis tombé sur une scène de Matrix. Rien à voir avec les commentaires bibliques, mais bon. Il y a une scène, je ne sais pas si c'est Matrix 2, où Neo, le personnage, va voir une voyante. Et il est en train de discuter avec elle dans la rue, et elle lui offre un bonbon. « Est-ce que tu veux un bonbon ?» Et là, Neo se moque d'elle. « Mais t'es une voyante. Tu me demandes si je veux le bonbon, mais en réalité, si t'es une voyante, tu devrais savoir si oui ou non. Pourquoi tu me poses la question ?» Et elle répond un truc un peu curieux. Il a dit « Mais en fait, tu as déjà fait le choix. En fait, tu viens me voir, pas parce que tu veux faire un choix, pas pour que tu veux que je te conseille, mais pour que je t'explique pourquoi tu as fait ce choix. » Peut-être que dans le cas de Simon, c'est ça. Il avait déjà fait le choix d'écouter Jésus, parce que c'était Jésus qu'il avait choisi. Mais peut-être qu'il ne comprend pas encore pourquoi. L'histoire aurait pu s'en finir là, mais je pense que Jésus n'a pas fini d'enseigner. En tant qu'enseignant, ce texte ne finit pas de m'étonner. Bon, je me suis un peu formé à la pédagogie, et une fois je suis tombé sur cette phrase qui dit « J'entends et j'oublie. Je vois et je me souviens. Je fais et je comprends. » Simon a entendu Jean-Baptiste prêcher. Il a entendu André, son frère, dire que Jésus est le Messie. Mais peut-être qu'il l'oublie. Il doit le voir pour se souvenir. Peut-être que là, quand il est dans le lac, l'eau jusqu'aux genoux, tenant la barque, il voit Jésus et cette expérience fera qu'il se souviendra toute sa vie. Mais il n'a toujours pas compris ce que veut dire la présence de Jésus dans sa vie. Peut-être que nous non plus, nous n'avons pas compris, nous avons entendu, nous avons vu, mais nous n'avons pas encore compris. C'est là que Jésus lui dit « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. » Même si je sais nager, j'ai toujours un peu de stress lorsque je n'ai plus pied dans une piscine ou dans la mer. Simon est un grand nageur, je ne doute pas, mais tenir la barque implique une chose. Avancer plus loin implique ne plus avoir pied et devoir donc monter dans la barque. Là, Jésus pousse le bouchon très loin. Jetez les filets. Ok. Attends. T'es rabbin, tu parles bien à la synagogue, à la plage, mais la pêche, c'est mon truc. Je ne suis pas un pêcheur de dimanche. Ici, on est des pros. La pêche, c'est notre business. Je ne suis pas un apprenti. J'ai pas monté cette boîte. J'ai ma propre barque. J'ai des employés. Tu ne vas pas me dire comment je dois faire mon boulot. Si je te dis qu'il n'y a pas de poisson, c'est qu'il n'y a pas de poisson. J'ai passé toute la nuit. Il n'y en a pas. On ne va pas faire des heures sup juste pour te faire plaisir. Ok, tu sais quoi, on va le jeter, ton filet, tu vas voir. On l'avait déjà nettoyé, mais ça fait rien. Ça fait rien. Monsieur le rabbin veut tester, on teste. Je ne sais pas si vous avez joué à la pêche miraculeuse. Vous savez, dans les foires, il y a une petite canne en plastique et on doit attraper les canards qui flottent. Mon expérience de pêche se résume à ça. Je ne sais plus rien sur la pêche. Mais je veux bien croire que pêcher du vrai poisson, c'est plus compliqué que ça. Ça bouge, les poissons, ça bouge. C'est lourd, il faut tenir le filet, tirer, Et lorsque le filet est plein, c'est une tâche ardue, j'imagine. C'est une tâche qui exige de l'entraide, une activité collective. La mission que Dieu nous confie, je pense que ce n'est pas une mission solitaire, c'est une mission qui se fait à plusieurs. Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes comme Pierre, mais nous ne savons pas faire. Évangéliser, c'est pas mon truc. On ne sait pas, je ne sais pas prêcher. Tous ces arguments, je les ai déjà entendus, je les ai entendus de ma part. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu utilise des personnes qui ne sont pas forcément compétentes. Et il ne nous demande pas de le faire seul, c'est une tâche collective. Même venir prêcher un dimanche, ça a l'air assez solitaire comme activité, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent ensemble de façon complémentaire pour qu'on puisse prendre ce temps de partage autour de la parole. Simon n'est pas seul, il n'est pas seul dans le travail, il n'est pas le seul à avoir vu, il n'est pas le seul à avoir été témoin de la grâce de Dieu. Il n'est pas le seul à avoir été témoin de la surabondance de cette grâce. Lorsque nous expérimentons le pouvoir de l'Esprit Saint dans notre vie, nous ne l'expérimentons pas au compte-gouttes. La grâce nous envahit, elle déferle sur nous, elle nous submerge. Dans Ephésiens 2, 7, c'est écrit: Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Et dans Éphésiens 1, versets 7 et 8, Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dieu a fait le travail en nous, il nous a équipés. Il ne vient pas de nous appeler, il nous avait déjà formés. Depuis des années, il a préparé en nous tout ce qu'il faut pour être prêt pour ce moment. Ici, aujourd'hui, je vous l'annonce, nous sommes prêts. Comme Simon. Et comme Simon, il suffit juste d'obéir. Même si nous ne comprenons pas pourquoi, il faut aller vers des eaux plus profondes. Abandonner le calme doux du rivage pour nous aventurer pour ce que Dieu a préparé pour nous. Nous avons peur, oui, mais il y a la peur de ceux qui sont restés sur la plage et il y a la peur de ceux qui sont montés sur la barque. Ce n'est pas la même. Ceux qui ont expérimenté la grâce surabondante de Dieu, ils ont été saisis par la crainte. Qui est Jésus? Qui c'est cette personne qui rassemble des foules, qui domine les éléments, qui remplit des filets? Qui suis-je? Je suis un homme pêcheur. Je suis souillé par ma vie, par mes désirs vains, par mes habitudes, mais surtout par mon orgueil. Je sais tout faire. Je sais pourvoir pour moi, pour ma famille. J'ai jeté ce filet toute la nuit, toutes les nuits. J'achèterai une deuxième barque et j'irai toujours sur le même lac. Simon comprend à ce moment-là la futilité de tout soi, la futilité de son histoire, sa propre fragilité. Comme un astronaute qui arrive sur la Lune ou qui va sur la Station spatiale internationale. Il regarde la Terre, cette minuscule planète bleue, avec tout cet espace intersidéral autour. Et il pourrait dire, comme dans Psaume 8, versets 4 et 5, Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Lorsque Simon voit tous ces poissons sur les barques qui s'enfoncent, il se rend compte de sa finitude, de son insignifiance. Il se rend compte que l'homme qui se tient devant lui, Cet homme, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est celui que son frère a appelé le Messie, celui dont Moïse a parlé, celui dont les prophètes ont parlé. C'est celui qui a changé son nom pour Céphas, Pierre. C'est celui qui change sa vie maintenant. Et là, Pierre tombe à genoux. Éloigne-toi de moi. Combien de fois nous ne sommes pas éloignés du Seigneur ? Nous nous sommes laissés entraîner par notre façon de vivre parce que nous ne nous sentons pas dignes du regard de Dieu dans nos vies. Comme lorsque Aaron et les Israélites ont eu peur en voyant le visage rayonnant de Moïse en redescendant du mont Sinaï. Pierre a eu peur d'être ébloui par la présence du Seigneur. Le chant qu'on a chanté avant a été composé, le chant « Béni soit ton nom ». Il a été composé par Sébastien Korn et il racontait dans une interview comment il l'avait composé. Il venait de perdre un ami très cher. Et ce sont très belles ces paroles parce qu'il parle des moments difficiles, des périodes compliquées dans nos vies. Nous en avons eu tous des périodes compliquées. Dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas à l'abri d'événements chaotiques, de problèmes qui nous envoient au fond. Les poissons sont peut-être sur la barque, mais nous sombrons au fond du lac. Je pense que Pierre était dans une période de crise. Sa belle-mère, si on revient à l'évangile de Jean, sa belle-mère avait été malade d'une forte fièvre, c'est Jésus qui l'a guérie. Les affaires n'étaient peut-être pas très bonnes, la pêche se faisait rare. En plus, il vivait dans une période d'instabilité politique, il y avait des Vladimir à l'époque. Combien de temps le business va tenir comme ça? Mais peut-être que la vraie noirceur était en lui. Il ne dormait plus. Il passait toute la nuit sur la barque. Il cogitait. Il disait qu'il était en train de travailler, mais peut-être il n'avait pas la force de rentrer à la maison, de retrouver sa famille et de faire semblant que tout allait bien. Les idées plus folles lui étaient passées par la tête, peut-être. Il avait triché, il avait menti, il s'était égaré. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur. Nous avons tous besoin d'écouter la voix du Seigneur nous dire, n'aie pas peur. Dieu nous a fait sortir de l'esclavage du péché. Il nous a fait traverser le désert. Il nous a nourris, il nous a abreuvés. Il peut remplir la barque d'eux-mêmes, mais ce qu'il nous offre ne peut pas être contenu dans ce lac. J'entends et j'oublie. Dieu nous a instruits, Dieu nous a parlé, mais nous oublions facilement. Je vois et je me souviens. Il nous a montré sa magnificence, son pouvoir, sa justice, sa grâce, son amour. Et c'est parce que j'ai vu sa grâce dans ma vie que je me souviens. Je me souviens de ce qu'il a fait en moi et je me souviens de ses promesses. Maintenant, je dois faire. Comme Simon-Pierre qui tire des filets jusqu'à ce qu'ils sentent qu'ils vont se déchirer, il faut mettre la main dans le cambouis, il faut se jeter à l'eau, même si la tempête se déchaîne, même si la barque s'enfonce, c'est en faisant que je comprends. Désormais, mon travail, c'est des êtres humains, c'est des vies transformées. De nos jours, il y a beaucoup de gens en quête de sens, des jeunes, des moins jeunes aussi. Il y a un besoin croissant dans notre société d'écoute, de partage. Les gens sont prêts à se livrer à des gourous, à des voyantes, à des intelligences artificielles qui ne font que répéter ce qu'on a envie d'entendre. Mais la parole qui change vraiment des vies, celle qui tranche, celle qui bouleverse, celle qui transforme, c'est celle-ci, dans nos mains. Elle nous les a confiées. Elle nous l'a confiée. Nous ne nous sentons peut-être pas les plus compétents, mais nous le sommes. Nous avons été choisis, instruits, guidés. Et nous n'avons qu'à lâcher nos filets emmêlés et nous mettre en route.